Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Le Tassé est avec nous exceptionnellement parce qu'on attend de Nicolas vers midi et demi, midi 35, là, sur le départ de Régis Labeaume. Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Alors, première rencontre en personne des ministres du G7 depuis 2 ans. Ils ont rien compris, hein. Ils pouvaient faire ça en visioconférence, puis
oui, mais moins poli. Ils avaient tellement hâte de se voir et de se rencontrer, tu sais. Et il va y avoir un G7 avec les premiers ministres d'ici quelques mois. Donc, il fallait qu'ils le préparent. Et ils ont fait ça à Londres. C'est là qu'aura lieu, de toute façon, le G7. Donc, on parle des ministres des Affaires extérieures. Et très franchement, ce qui est sorti de là, c'était des choses auxquelles on s'attendait. Et je t'aurais dit, oui, t'as tout à fait raison, si ça avait été d'un sujet que je te garde pour la fin, qui a été vraiment quelque chose d'un peu surprenant. D'abord, ils ont dit que ils se félicitaient des relations, des négociations avec l'Iran, et puis ils demandent à l'Iran de poser un geste, et de libérer les détenus binationaux, c'est-à-dire iraniens et d'une autre nation, qui sont en prison en Iran, détenus, disent les ministres des Affaires étrangères du G7, de manière arbitraire. Donc, on s'attendait à ça, ça va bien, ils saluent donc les négociations. Sur la Russie, évidemment, ils reprochent à Moscou de renforcer son dispositif militaire en Crimée, autour de l'Ukraine, d'accord. Et ils reprennent un peu ce que les Américains disaient, c'est-à-dire que la Russie a des intentions malveillantes et fait des efforts pour saper les démocraties. Ils demandent à la Russie d'arrêter ça, mais il n'y a rien de neuf là-dedans, hein, très sérieusement. Sur la vaccination, toujours la même chose, on est en faveur de transfert de technologie, on est en faveur d'une décentralisation de la production, d'un meilleur financement de la vaccination. Encore là, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont rencontrés? C'est des choses qui sont tellement entendues. Mm-hmm. Là où ça change, c'est sur la Chine. Bon, évidemment, ils ont critiqué la violation des droits de la personne au Xinjiang. Ça, on s'y attendait. L'érosion des fondements de la démocratie à Hong Kong, d'accord aussi. Mais pour la première fois, ils ont inclus dans leur communiqué de presse, ils ont inclus un soutien à la participation de Taïwan à l'Organisation mondiale de la santé et ils ont condamné la montée des tensions dans le détroit de Taïwan entre la Chine et Taïwan. Or, c'est la première fois que le G7 parle de Taïwan dans ses communiqués finaux. Et là, ici, il y a quelque chose, hein, final du Conseil des ministres, on s'entend, hein, des ministres des Affaires étrangères. Et donc, le gouvernement chinois, évidemment, a réagi avec virulence contre ça, en disant qu'il s'agissait d'une violation grossière de ses affaires internes et que ces pays feraient mieux de s'occuper de leur économie, qu'il s'agissait d'accusations sans fondement. Et évidemment, chaque fois que le gouvernement chinois est critiqué, il réagit de plus en plus maintenant. Sauf qu'il n'y a pas de frontière entre d'affaires internes, ceux quand il s'agit de droits de la personne qui ont été violés. Mais encore une fois, cette question de Taïwan va nous occuper, je pense, pendant le reste de l'année. Il va y avoir des tensions grandissantes entre les Chinois et les autres pays, en particulier la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, etc. Ça pose un grave problème parce qu'en Chine, en ce moment, il y a une très forte montée du nationalisme. Le gouvernement chinois, le gouvernement de Xi Jinping, depuis des années, chauffe la braise du nationalisme chinois contre Taïwan, contre les Occidentaux, etc. Et donc, on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse ici. C'est vrai, il n'y a pas de rationnellement, il n'y a aucune raison qu'il y ait une guerre entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan. Aucune raison. Mais, étant donné le climat d'incertitude en ce moment, étant donné le climat de guerre froide, et on ne sait pas dans quelle mesure Xi Jinping va être réélu aussi, il y a vraiment un danger de dérapage. Il faut surveiller ça de très près, ce qui se passe avec Taïwan.
Mais la Chine, là, elle peut pas chicaner avec tout le monde sur toute la planète.
Mais elle est en train de le faire. Elle a une diplomatie extrêmement agressive en ce moment. Et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on voit ça depuis quelques années. Et tu te souviendras, ça avait commencé avec Stéphane Dion en 2016, si j'ai bonne mémoire, qui avait reçu Wang Yi, et puis ça s'était très très mal passé à la conférence de presse. Tout le monde avait été étonné. Stéphane Dion le premier, les Chinois avaient été excessivement critiques de leur rencontre, excessivement agressifs contre le Canada. Et c'était en fait le début de ce qu'on va appeler plus tard la diplomatie des loups, c'est-à-dire que les Chinois, véritablement maintenant à l'international, sont extrêmement durs, extrêmement agressifs contre quelque pays que ce soit, si ce pays ne fait pas ce que les Chinois veulent. Et l'exemple le plus parfait de ça, c'est aujourd'hui même l'Australie. L'Australie a vu ses relations commerciales suspendues par la Chine parce que la Chine n'est pas contente de l'Australie. Pourquoi est-ce que la Chine n'est pas contente de l'Australie? Parce que l'Australie lui tient tête. Elle critique les activités d'espionnage de la Chine depuis des années, son implication dans les élections en Australie depuis des années aussi, plus récemment son rôle dans la pandémie de COVID-19, les droits de la personne, etc. Et donc, le gouvernement de Xi Jinping se venge. Et donc, il avait déjà suspendu les importations australiennes de bœuf et de vin. Et maintenant, on suspend tous les accords économiques entre la Chine et l'Australie. En se disant, ben vous verrez bien ce que ça va faire. On s'imagine, encore une fois, punir l'Australie, faire un exemple avec ça. Mais moi, je pense que ça va avoir exactement l'effet contraire. Ce qui va se produire, c'est que les Australiens vont dire « Voulez-vous nous punir ?» Ben très bien, on va se passer de vous. Et au reste du monde, ça envoie un message extrêmement négatif, qui est que la Chine n'hésite pas à faire des pressions commerciales de toutes sortes pour parvenir à ses fins politiques.
Mais écoute, il va peut-être avoir moins de marchandises chinoises sur le marché qui va polluer la planète. Peut-être que c'est une bonne affaire. Peut-être qu'on va revoir nos priorités.
Je pense que ça s'en vient dans les pays occidentaux, surtout avec les nouvelles lois sur l'environnement. Je pense que la marchandise chinoise va avoir de plus en plus de mal à s'écouler. C'est vrai que on peut pas s'en passer pour le moment parce que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont très intégrées. Mais la Chine elle-même dit que d'ici 2025, elle veut devenir autonome à 80% pour tous les produits qu'elle va consommer. Donc, elle va surtout importer quelques produits alimentaires, elle va surtout importer des minéraux, du bois, ce genre de choses. Et elle va essayer d'exporter, ça va lui faire plus mal, dans ce qu'on appelle les routes de la soie, sur les nouvelles routes de la soie. Mais même là, il y a des pays qui s'en retirent. L'Australie, je te le disais tout à l'heure, s'est retirée du projet des routes de la soie de la Chine. Qui aussi provoque évidemment la colère de la Chine. Mais il y a de plus en plus de pays qui risquent de faire ça parce que la Chine joue pas franc jeu. La Chine fait des pressions qui sont pas admises par les autres pays et qu'on fait pas normalement, tu vois.
Okay. La France, pendant ce temps, change de stratégie face au Liban.
Ben, ils savent plus quoi faire. Le Liban. Ouais. Et je ris, mais c'est pas drôle. Depuis 9 mois, il y a eu, tu sais, il y a eu cette explosion dans le port de Beyrouth, affreuse. Et puis, il y a une démission du gouvernement libanais suite à ça. Et depuis, il n'y a pas de formation du nouveau gouvernement. Tout est bloqué. Et le pays s'enfonce dans la crise économique, dans une crise politique en même temps. Les aliments coûtent de plus en plus cher. Les gens n'ont pas d'argent. C'est vraiment une crise extraordinaire comme on n'en a jamais vu au Liban. Alors, donc, le ministre des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian, est en ce moment en visite au Liban pour consultation, pour réitérer, bien entendu, la solidarité entre la France et le Liban, pour amener un certain volet humanitaire, donner de l'argent aux Libanais, des produits. Et puis, surtout, pour dire, écoutez, c'est fini la politique de la carotte, maintenant on sort le bâton. Et on va essayer de sanctionner un certain nombre de dirigeants libanais qui bloquent tout, parce qu'ils refusent tout compromis pour former un nouveau gouvernement. Alors, ça va servir surtout à exposer en public et à blâmer ceux qui bloquent toute entente, mais est-ce que ça va faire sortir le Liban de la crise? J'en suis pas sûr. Et les Libanais eux-mêmes sont pas mal désabusés de la situation. Et les Libanais se rendent bien compte que la corruption, tu comprends, est devenue tellement généralisée au Liban qu'ils disent que toute forme d'aide finit dans les poches de quelques personnes et se rend pas à la population. Et c'est vrai, malheureusement, au Liban, la corruption est devenue une espèce de trait culturel. Et je veux dire par là que la corruption atteint de tels niveaux que ça devient un mode de vie, presque une seconde nature. Et dans ce contexte, c'est difficile de concevoir la vie sans corruption. On sait plus vivre sans corruption au Liban.
Ouais. Et rapidement, Loïc, Israël vers une cinquième élection en 2 ans.
Cinquième élection en 2 ans, parce que, et ça c'est la faute évidemment du système de proportionnel, Benjamin Netanyahou a été incapable de former un gouvernement dans le délai imparti de 28 jours. Donc c'est maintenant Yair Lapid, l'ex-ministre des Finances, qui est un homme très intéressant, hein, ex-journaliste, ex-présentateur de la télévision et auteur de 11 romans policiers, qui va tenter de former un gouvernement. C'est le deuxième parti qui a gagné, sauf que même si il est très centriste, il est en faveur d'un État palestinien, mais comment il va faire? Ils sont partis à 21 députés et il faut qu'il en convainque 40 de se joindre à lui pour faire la majorité. Alors si t'as le parti de Netanyahou, ça signifie que tu vas être obligé de faire, il va être obligé de faire coexister des fondamentalistes religieux juifs et musulmans, des députés très à gauche et très à droite, etc. Ben oui. Bonne chance. Il y a personne qui pense qu'il va y parvenir véritablement, tu sais. Ouais, alors il dit, oui, vous allez voir, je vais faire un gouvernement d'union nationale. Ben, il y a eu 28 jours. Et s'il n'y parvient pas dans 28 jours, il y a de fortes chances que, il y a un nouveau gouvernement, il y a de nouvelles élections, encore dans 28 jours.
Qu'il appelle Luc Langevin pour un tour de magie. Peut-être ça va aider. Hein? Luc Tassé, merci. À demain.
Salut.